sur mon centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Puisque France Culture s'organise ce week-end autour du thème des relations entre les artistes et les robots, à l'occasion de l'ouverture de l'exposition au Grand Palais à Paris qui s'intitule « De la sorte », je n'ai pas cru pouvoir mieux faire que de consacrer cette émission au professeur Frankenstein et au monstre qu'il a créé avant que celui-ci ne lui échappe. Nous voyons bien qu'il flotte dans l'air par les temps qui courent à propos de l'intelligence artificielle, du transhumanisme et évidemment des robots, bien des interrogations nouvelles ou renaissantes, bien des supputations et aussi diverses angoisses qui se développent alentour. L'homme comme apprenti sorcier, comme risquant de se trouver dépassé par ses créatures, c'est exactement le sujet du roman illustrissime de Mary Shelley, publié en anglais à Londres en 1818 et intitulé « Frankenstein ou le Prométhée moderne ». L'ouvrage a connu une immense postérité portée par la presse, les livres, le théâtre, le cinéma et même la bande dessinée. Et il est évident que ce succès d'âge en âge ne peut pas s'expliquer par les seuls mérites littéraires du roman. Il touche forcément à des émotions collectives qui se perpétuent quelque part entre la science et la nature, entre la raison et le sentiment, entre la singularité et le clonage. Claude Aziza, mon invité, qui a longtemps enseigné à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et qui est secrétaire général du Festival du film d'histoire de Pessac, vient de publier un dictionnaire Frankenstein à multiples facettes qui, pour nous, tombe à pic.
Frankenstein, faire de plusieurs cadavres en un instant un mort vivant. Rassembler, coudre ensemble les morceaux, le nez, les yeux, les lèvres et la peau, les connexions nerveuses fixées au cou par des écrous. Fallait un cerveau aussi grand qu'Einstein pour en greffer un autre à Frankenstein, faire de plusieurs cadavres en un instant. Mais il fallait aussi un assistant qui, ayant brisé le cœur par accident, lui substitua celui d'un assassin, assassin. Fallait un cerveau aussi grand qu'Einstein pour en greffer un autre à Frankenstein, faire de plusieurs cadavres en un instant un mort vivant. Après quelques décharges électriques, il se mit à rouler des mécaniques. Puis renversant bec benzène et cornu, il disparut. Fallait un cerveau aussi grand qu'Einstein pour en greffer un autre à Frankenstein, faire de plusieurs cadavres en un instant un mort vivant. Avec toi le jour de tes noces, avait promis au docteur le colosse. Et lorsque la fiancée arriva, il est
Claude Aziza, bonjour.
Bonjour.
C'est Serge Gainsbourg qui a écrit les paroles et la musique de cette chanson interprétée par France Gall en 1972 et qui s'intitule Frankenstein. Je trouve qu'il faut d'entrée de jeu rappeler qu'il y a un curieux glissement puisque Frankenstein c'est le nom du savant, le savant un peu fou qui crée le monstre et puis par un glissement sémantique c'est devenu le nom aussi de la créature.
Oui, c'est vrai qu'il y a une confusion, mais on pourrait dire aussi que finalement un fils a le nom de son père. Donc le Victor Frankenstein est le papa du monstre et après tout, il est tout à fait logique qu'il s'appelle Frankenstein. Le problème, c'est que dans le roman de Marie Shelley, on l'appelle la créature quelquefois.
Le monstre aussi.
Le monstre très peu de fois et très souvent le démon. Donc il n'y a que trois termes pour le qualifier dans le roman.
Le père s'appelle Victor, ce qui permet aussi Victor. De distinguer oui. Le savant et sa créature.
Oui.
On peut dire aussi, c'est une autre observation initiale, que si la créature, le monstre, a échappé au savant qu'il a créé, l'histoire de Frankenstein a échappé aussi à Mary Shelley, puisqu'elle s'est développée de façon prodigieuse au cours des deux siècles qui ont suivi. Il y a tout juste deux siècles que le roman est paru, ou à peu près.
Oui, le 11 mars 1818, c'est la date de parution du roman, mais il est parfois normal qu'une créature échappe finalement à son créateur et que on se souvient du nom de Frankenstein et on a un petit peu oublié le nom de Mary Shelley. Alors il faut dire que dans ce cas-là, c'est la même chose pour Dracula, on a oublié le nom de Bram Stoker.
L'auteur.
Donc c'est un début de processus de mythification.
Eh bien, il faut être juste à l'égard de Mary Shelley. Il faut aujourd'hui, ce matin, Claude Aziza, lui restituer son mérite en rappelant l'ambiance assez étrange dans laquelle a surgi Frankenstein et la personnalité de l'auteur.
Bien sûr. On a raconté quand même, on a fait beaucoup de cinéma, si j'ose dire, avant la lettre, sur la création de Frankenstein. C'est-à-dire une nuit d'orage, un très mauvais temps d'ailleurs, tout l'été. L'été 1816 a été extrêmement terrible, pluvieux, donc un très mauvais temps. Et dans une villa, il y a une atmosphère électrique.
Près du lac de Genève.
Près du lac de Genève.
Avec qui sont les personnages qui sont dans cette curieuse ambiance?
Oui, alors ça, c'est, en fait, c'est au fond une compagnie, on dirait maintenant, de jeunes gens riches, fortunés. C'est des révolutionnaires d'opérette, si vous voulez. Il y a Lord Byron, qui a un pied beau, hein, qui est donc considéré par cette infirmité, par tout ce qu'il fait, comme une espèce de monstre. Percy Shelley.
Mais très, 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 très séduisant, très beau en même temps.
Byron, très beau, bien sûr. Percy Shelley, qui ne connaissait pas Byron avant, qui va faire sa connaissance justement à ce moment-là. Un médecin qui est le souffre-douleur de Byron, qui s'appelle Polidori, qui sera célèbre un petit peu plus tard. Et puis, il y a Mary Shelley, et puis sa sœur Claire, sa demi-sœur Claire, c'est très compliqué, la relation, qui est la maîtresse de Byron.
Alors, d'où vient Mary Shelley? Quelle est son origine? Elle est déjà nimbée de tragique. Toute la vie de cette femme a été entourée de deuil, de drames de toutes sortes.
Oui.
Dès son enfance.
Dès son enfance, parce que elle est née, ses parents sont tous les deux célèbres, sa mère, qui s'appelle aussi Mary, Wollstonecraft, est une des premières féministes de l'histoire, on a tendance un peu à l'oublier. Elle a beaucoup fréquenté les milieux révolutionnaires, et notamment bien connu Olympe de Gouges. Donc, et elle meurt en donnant naissance à Marie.
Elle est l'auteure d'un livre qui a eu beaucoup de succès, qui est l'apologie de la Révolution, et en même temps des chances que cette Révolution devrait ou pourrait apporter à l'émancipation féminine, Vindication of the Rights of Woman, 1792.
Oui, c'est un best-seller. Et d'ailleurs, elle est très en avance sur les mœurs. Elle préconise l'union libre. Elle est donc tombée amoureuse, la mère, hein, d'un révolutionnaire américain qui va l'abandonner. Et puis, en définitive, elle se mariera avec Godwin, qui lui aussi est un philosophe extrêmement célèbre, très très connu, et en même temps un romancier. Et donc, c'est dans ce milieu littéraire que va grandir Mary Shelley, mais orpheline d'une mère, dotée un peu plus tard d'une belle-mère, et d'une belle-mère qui elle-même a des enfants. Et donc il y a un mélange, une famille assez recomposée, on dirait, de nos jours. Et elle va trouver dans l'entourage de Godwin un jeune poète qui lui-même est marié, qui a déjà enlevé une jeune fille dont il est amoureux, à qui il a fait un enfant.
Tout ça est très turbulent.
Oui, très turbulent, Percy Shelley. Et donc, c'est une compagnie de gens très fortunés, parce que même si Percy n'a pas d'argent, ni Mary Shelley non plus, mais ils sont très connus. Percy a un père immensément riche, et que donc cette atmosphère de la Villa Diodati, c'est tout simplement un petit jeu littéraire. Où il y a cinq personnages qui sont là, qui commencent à imaginer qu'on pourrait écrire des histoires, et puis, qui s'en fichent un peu, il faut bien dire, Byron va écrire quelques lignes d'une nouvelle qui deviendra ensuite un roman écrit par Polidori, qui s'appelle Le Vampire, c'est le premier roman, Lord Ruthwen et les Vampires, c'est le premier roman de vampire d'ailleurs, et de vampire homme. Et puis, Mary Shelley n'écrit rien. Sauf qu'elle va se coucher très très tard, ou très tôt dans le matin, et elle a un peu ce que Freud appellerait un rêve éveillé. Ça veut dire, elle ne dort pas, mais elle rêve et elle voit une espèce de créature qui se penche sur elle. Elle a l'esprit un petit peu peut-être agité. Hein,
et voilà Frankenstein qui surgit.
Et voilà Frankenstein qui surgit.
Il faut ajouter peut-être que cet été de 1816, où il apparaît, est assez étrange, puisque tout l'Occident est recouvert par un ciel très sombre. Et on sait aujourd'hui que c'est l'effet de l'éruption d'un volcan.
Absolument.
En Indonésie, le volcan de Tambora, qui jette dans l'atmosphère toutes sortes de particules. Et c'est ce climat qui, un romantisme un peu brutal, un peu lourd, qui explique aussi l'ambiance de cette rencontre entre ces jeunes gens.
Oui, d'autant plus que cette ambiance, elle est encore accentuée par cette espèce de d'odeur de soufre qui est autour de ces personnages. Mais dans un premier temps, Shelley et Marie sont à l'hôtel en face de la Villa Diodati.
On se regarde avec des longues vues.
Oui, et alors justement, ils vont louer, non pas la Villa Diodati, mais ils vont louer une petite maison qui est un peu plus bas que la villa. Et puis, ils feront des allers-retours. Claire ira la nuit retrouver son amant Byron, qui ne l'aime pas, mais elle s'est jetée à son cou, donc il lui fera un enfant, parce que ces gens-là font très vite des enfants. Et donc, les gens qui louent une chambre dans l'hôtel qui est en face de la Villa Diodati, les touristes, et avec ils installent une longue vue pour voir ce qui se passe dans cette villa. C'est quand même assez extraordinaire. Ce qui fait que d'ailleurs, ils y resteront peu, Percy et Marie.
Tout ça est marqué d'une sorte de goût du jeu littéraire, et en même temps, il y a du drame qui tourne autour. Polidori se suicide, Shelley va se noyer, Byron mourra un peu plus tard de maladie en Grèce, et romantique s'il en fut, et Marie perd 3 enfants sur 4.
Oui. La vie de Marie Shelley, cette femme étonnante, est une vie pleine de drames, de mystères et en même temps d'émotions, mais au-delà. Par exemple, lorsque Marie Shelley rencontre Percy, elle ne s'appelle pas encore Shelley, elle l'emmène au cimetière, et là, devant la tombe de sa mère, elle lui avoue son amour. Ce qui fait que Percy va l'enlever.
Devant la tombe, c'est un peu gothique, non? C'est déjà le roman.
C'est gothique, c'est en même temps, je dirais, c'est presque mystique, si vous voulez. Un peu plus tard dans le siècle, elle aurait fait partie de ce qu'on appelle les frénétiques. Quoi. C'est-à-dire, c'est une femme d'impulsion, c'est une femme qui vit sa vie directement, qui n'a aucun préjugé, qui ne s'embarrasse de rien et qui est pleine de feu et de passion. Quoi.
On est avant la grande période du conformisme bourgeois qui va s'ouvrir au mi-temps du 19e siècle. C'est en même temps une personnalité assez sombre qui... entourée de malheurs comme elle l'a été, joue avec sa propre solitude, avec son propre chagrin. Et écoutez cet extrait de son journal. « Je fus aimé un jour, c'est à ce souvenir que je dois m'attacher. Mais ne vivre que pour soi, lire, sans avoir quiconque à qui confier ses réflexions, c'est après la mort de Shelley noyé, écrire sans jamais s'entendre encourager, pleurer sans pouvoir épancher sa douleur dans le sein d'autrui, dans ton sein, Shelley, c'est trop de malheur. » C'est là l'alpha et l'oméga de mon histoire. Je n'ai personne à qui parler. tenir ce journal est inutile, cela ne m'apaise en rien et au contraire m'irrite en me faisant mesurer les misérables expédients auxquels je suis réduite. C'est pas très gai.
Oui, mais son existence est dramatique. Shelley meurt en 1822, il a 30 ans, il s'est noyé. Elle lui restera fidèle toute sa vie. Ça veut dire qu'elle se retrouvera seule avec son dernier enfant, son fils, et toute sa vie, elle sera fidèle au souvenir de Shelley, peut-être à une exception près, une intrigue malheureuse avec un révolutionnaire italien qui est à Paris, qui va la faire chanter parce qu'elle lui a envoyé des lettres d'amour. Et il va falloir qu'elle demande à la police française de récupérer ses lettres. Ça, c'est un épisode un peu connu. Et puis, une demande en mariage de Mérimée, semble-t-il.
Elle le refuse.
Qu'elle refuse manifestement. Et on se dit que littérairement, un enfant littéraire de Mérimée et de Marie Shelley aurait été pas mal. Mais je me demande si dans la dernière nouvelle de Mérimée qui s'appelle Lochis et qui est un homme ours, il n'y a pas quand même quelque influence du roman de Marie Shelley.
Écoutons un extrait de la préface de l'édition de 1818, Claude Aziza. La première préface qu'on attribue parfois à Shelley lui-même, c'est discuté. C'est une lecture donnée sur France Culture le 30 août 1997.
Longues et nombreuses furent les conversations entre Lord Byron et Shelley. Conversations que j'écoutais avec ferveur, mais sans presque jamais y prendre part. Au cours de l'une d'entre elles, il fut question de diverses doctrines philosophiques, et parmi celles-ci de la nature du principe de vie, de la possibilité qu'il soit un jour découvert et divulgué. On disait qu'il, le docteur Darwin, avait conservé un morceau de vermicelle dans un bocal en verre et qu'un beau jour, par quelque moyen extraordinaire, ce vermicelle s'était mis de lui-même en mouvement. Ce n'était pas ainsi, en tout cas, que la vie se transmettrait. Peut-être parviendrait-on un jour à ranimer un cadavre. Le galvanisme portait à y croire. Peut-être serait-il possible de fabriquer les différentes parties d'un être, de les assembler et de leur insuffler la chaleur vitale.
Voilà, Claude Aziza, voilà le principe même du roman Frankenstein dont nous parlons ce matin.
Oui, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, la préface, n'oublions pas que le roman paraît sans nom d'auteur.
Alors pourquoi est-il anonyme? Quel est le sens de cet anonymat?
Ça pose vraiment un problème, je crois. On peut imaginer plusieurs choses. La première, c'est que Marie Shelley, qui s'appelle pas encore Shelley, est inconnue. Et puis la seconde, qu'est-ce qu'une femme qui écrit des romans, finalement, il y en a peu. Certes, il y a Anne Radcliffe, qui est la romancière du roman gothique la plus connue, mais il y en a peu, finalement. Et peut-être aussi, et c'est une hypothèse défendable, je crois, que au fond, et si l'on admet que la préface a été inspirée par Percy Shelley, peut-être que Percy Shelley, qu'un caractère assez trouble, il faut bien dire, n'est pas mécontent qu'on puisse éventuellement lui attribuer le roman. C'est ce qui se passera. On va penser que le roman est écrit par Percy Shelley. Et donc, après, l'anonymat va être levé, bien entendu, une fois qu'on aura trouvé un éditeur, et ce qui ne sera pas facile d'ailleurs. Et donc, si on regarde la préface de 1831, on s'aperçoit, Shelley est mort bien sûr, on s'aperçoit qu'elle est très importante et en même temps, elle revient beaucoup sur ce que Marie Shelley raconte en 18, comme si finalement, c'était presque pas elle qui avait fait sa préface, ou en tout cas que Shelley lui avait dicté des phrases entières. Maintenant que Shelley est mort, post-mortem, elle règle un peu ses comptes avec lui, littéraire, je viens de dire. C'est ça qui est intéressant, c'est la comparaison entre ces deux préfaces.
Le moment est peut-être venu de rappeler quelle est l'intrigue à grands traits, quelle est l'intrigue du roman, ce qu'il raconte, l'évolution des relations entre le professeur et sa créature, le monstre.
Oui, c'est une intrigue très simple, linéaire. Ça se passe dans un pays très calme, très beau, c'est en Suisse, c'est à Genève, un jeune garçon plein d'avenir, né de parents un peu âgé, mais qui vont le gâter. Il a d'ailleurs deux autres frères. Il n'est pas seul. Et puis, qui est attiré par la science et qui va faire ses études à l'université allemande et se spécialiser en physique et en chimie.
Jusque-là, très du classique. Curieux.
Sauf que, dans sa jeunesse, il a lu des gens comme Paracels. Il a lu les alchimistes. Et on se moque un peu de lui. Son père lui dit, mais non, ce sont pas des lectures sérieuses, c'est professeur aussi. Donc, il lit un peu tous ces gens-là qui ont essayé de trouver la pierre philosophale. Et il faut pas oublier qu'il y a quand même, à cette époque, l'influence de quelqu'un qui s'appelle Cagliostro, Joseph Balsamo. Dumas a écrit un magnifique roman là-dessus. Donc, c'est quelqu'un qui passer pour occultiste aussi. Donc il y a cette espèce de climat mystique et c'est au fond des études mystico-scientifiques que fait Victor et il décide donc de recréer la vie. D'autant plus que là, dans la réalité scientifique de l'époque, Darwin, qui est le grand-père hein, du naturaliste Charles Darwin, avait effectivement réussi, avec quelques décharges électriques, à faire remuer un peu un vermisseau. Et on faisait des expériences comme ça sur des grenouilles aussi. Donc à l'époque, on est très intéressé par ça. Et ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est qu'on ne nous dit pas comment il a fait. On ne nous dit pas comment il a créé cette créature. Donc une créature est créée, sauf que les morceaux sont mal assemblés, si vous voulez. Il veut créer un être parfait et finalement c'est un monstre. Mais c'est un monstre physique. Contrairement à ce que le cinéma va nous raconter, c'est quelqu'un, c'est un bébé, il ne faut pas oublier que c'est un bébé, et qui, par le hasard de circonstances, qui va s'enfuir. Il se rend compte de sa monstruosité, donc il va s'enfuir, qui va se cacher dans une maison.
Alors attendez, avant de raconter la suite, nous allons évoquer, avec cette citation du roman, nous allons évoquer l'apparition de Frankenstein. Comment il surgit de l'imagination de ce savant un peu fou.
Ce fut par une lugubre nuit de novembre que je contemplais mon œuvre terminée. Dans une anxiété proche de l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient me permettre de faire passer l'étincelle de la vie dans la créature inerte étendue à mes pieds. Il était déjà 1 heure du matin. Une pluie funèbre martelait les vitres et ma bougie était presque consumée lorsqu'à la lueur de cette lumière à demi éteinte, je vis s'ouvrir l'œil jaune et terne de cet être. Sa respiration pénible commença et un mouvement convulsif agita ses membres. Comment décrire mes émotions en présence de cette catastrophe ou dessiner le malheureux qu'avec un labeur et des soins si infinis je m'étais forcé de former? Ses membres étaient proportionnés entre eux et j'avais choisi ses traits pour leur beauté. Pour leur beauté, grand Dieu. Sa peau jaune couvrait à peine le tissu des muscles et des artères. Ses cheveux étaient d'un noir brillant et abondant, ses dents d'une blancheur de nacre, mais ses merveilles ne produisaient qu'un contraste plus horrible avec les yeux transparents qui semblaient presque de la même couleur que les orbites d'un blanc terne qui les encadrait, que son teint parcheminé et ses lèvres droites et noires. Les accidents variés de la vie ne sont pas aussi sujets au changement que les sentiments humains. Depuis près de 2 ans, j'avais travaillé sans relâche, dans le seul but de communiquer la vie à un corps inanimé. Je m'étais privé de repos et d'hygiène. Mon désir avait été d'une ardeur immodérée, et maintenant qu'il se trouvait réalisé, la beauté du rêve s'évanouissait. Une horreur et un dégoût sans bornes m'emplissaient l'âme. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, je me précipitai hors de la pièce et restai longtemps dans le même état d'esprit dans ma chambre, sans pouvoir goûter de sommeil.
C'était une lecture de Yves Arcanel dans Les chemins de la connaissance de Gérard Gromaire sur France Culture, le 20 novembre 1989. On voit vraiment Claude Aziza, le créateur dépassé par sa créature.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on écoute ce texte attentivement, il y a un écho qui est quand même assez intéressant. Hein. Moi, je pense, en écoutant ça, à ce que dit Lucrèce, c'est « animal tristé post-coitum », moi je dirais « animal tristé post-scriptum ».
Lucrèce, le grand poète latin.
Le grand poète latin, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose, il a accompli son œuvre, et finalement, il a cette espèce de crise. Et je me dis même que si la créature avait été moins imparfaite, peut-être que le résultat en eût été le même. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose, il a bien senti qu'il a transgressé. Et là, cet abattement, il n'est pas uniquement causé par l'apparence physique de la créature. Il est causé par le savant. C'est un savant fou, bien sûr, c'est le prototype des savants fous. Hein. Et c'est intéressant parce que dans la description, un peu plus loin, lui, il compare la créature à une momie. Et si je ne m'abuse, c'est la première fois que dans un texte littéraire, on fait une comparaison avec une momie.
Une momie qui se réveillerait.
Qui se réveillerait. Et l'expédition d'Égypte n'est pas très loin.
Alors, quelle est la suite de l'histoire?
Alors donc, la créature s'est réfugiée dans une grange qui est attenante à une maison. Et là, il y a un couple qui est là avec un père aveugle. En fait, il faut remarquer que Frankenstein, c'est un roman en poupée russe. Ce sont des emboîtages. Ça veut dire qu'il y a un récit dans le récit, et récit dans le récit, sans arrêt.
En abîme, en quelque
sorte. En abîme, oui, c'est une mise en abîme. Il ne faut pas oublier non plus que ça commence au pôle Nord et que c'est le point de départ, c'est quand même le capitaine, un explorateur, fou aussi, capitaine d'un navire qui recueille Victor Frankenstein, à qui Victor Frankenstein raconte son histoire.
Robert Walton.
Et lui écrit à sa sœur, ça commence par l'aide. Donc, il y a une série d'histoires. Et donc, la créature va retrouver ensuite son créateur et lui raconter ce qu'elle a fait, ce qu'elle est devenue. Et d'une créature informe, c'est-à-dire un bébé, pendant de longs mois, elle est cachée dans cette maison où il y a des gens qui sont très intéressants, très érudits, qui ont fui d'ailleurs des persécutions, qui sont des Français. Ça aussi, c'est pas inintéressant. Et donc, il va apprendre quoi? Eh ben, il va lire Plutarque. Ça, c'est intéressant. Donc, il va apprendre Plutarque, il apprendra les philosophes, et c'est-à-dire qu'il va acquérir une culture du début du 19e, si vous voulez.
Shelley, Marie Shelley est peut-être inspirée par un certain nombre de grands auteurs qui ont réfléchi à l'éducation, par exemple Jean-Jacques Rousseau avec l'Émile.
Certainement, mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, alors je ne sais pas si elle a connu l'histoire de Victor de l'Aveyron, parce que finalement, ce que raconte la créature, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un bébé et qui, peu à peu, au contact humain, c'est très difficile ça, va apprendre à lire, puis à écrire. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à se plonger dans la bibliothèque de ses hôtes involontaires, qui ne savent pas qu'il est là.
Victor de l'Aveyron, c'est cet enfant sauvage qui a été trouvé au début du 19e siècle. D'ailleurs, François Truffaut en a fait un beau film.
Un beau film, et il a été recueilli par un médecin qui s'appelle Dr Itard. Et il est mort relativement jeune, mais il a appris à lire et à écrire. Et ça, c'est passionnant. Il est bien évident que ce n'est pas possible pour quelqu'un qui est seul, bon, un bébé qui est seul, il ne peut pas apprendre à lire et à écrire tout seul. Il faut qu'il ait une aide. Mais on a d'ailleurs un autre exemple tout aussi célèbre que Frankenstein, et le romancier qui a fait cet exemple s'est souvenu de Frankenstein, c'est Burroughs qui explique comment Tarzan, avec l'aide d'un abécédaire, apprend à lire et à écrire. Et Burroughs a lu Frankenstein. Donc on a des jeux littéraires qui sont très intéressants, et donc cette créature devient une créature extrêmement cultivée, très intéressante, qui a un langage élevé. Ce n'est pas du tout le monstre du cinéma, avec des borborygmes, pas du tout. C'est quelqu'un qui a une haute intelligence et qui est parfaitement capable de s'expliquer, de s'exprimer. Je me demande même s'il n'est pas plus intelligent que Victor. Je n'ai qu'une médiocre sympathie pour Victor.
Tout cela n'empêche pas que la fin soit tragique.
Absolument, parce que le cinéma nous a montré uniquement une espèce de huis clos, en quelque sorte. Mais là, on est quand même... D'abord, on est dans des étendues verdoyantes, en Suisse.
Mais ça se termine dans la glace.
Ça commence dans la glace, ça se termine dans la glace. Ça veut dire que finalement, Victor va mourir et la créature va revenir raconte son histoire à l'explorateur Walton et elle va repartir. On la voit repartir sur un traîneau et elle a décidé de s'immoler d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle va périr par le feu. Elle rentre dans le néant et là, on a évidemment beaucoup d'allusions à des personnages mythologiques, bien entendu.
Nous allons en parler. Bien sûr, il y a Prométhée et peut-être aussi Pygmalion du côté de Victor. Mais écoutez d'abord, et cela illustre la tension extrême qui est intervenue entre le créateur et la créature. Écoutez cet autre extrait de Frankenstein. Ici, c'est Guillaume Gallienne qui est le lecteur. C'est un extrait dans « Ça peut pas faire de mal » sur France Inter, le 31 janvier 2015. Il s'agit du meurtre d'un enfant.
Oh, la nuit misérable que je passais. En dehors de moi, tout n'était que joie ou repos. Moi, en revanche, pareil à Satan, je portais mon enfer. Ne recevant de sympathie de personne, j'aurais souhaité déraciner les arbres. Et dès cet instant, je déclarai une guerre sans merci à votre espèce, et surtout à celui qui m'avait créé et précipité dans la tourmente de cette misère insupportable. Puis je recherchai refuge dans les bois, je décidai de fuir la scène de mes malheurs et me pris à songer à vous. Vos notes m'avaient révélé que vous étiez mon père, mon créateur. Et malgré la haine éprouvée à votre égard, je savais que vous étiez le seul de qui je puisse espérer quelque secours. Créateur insensible et sans cœur, vous m'aviez doté de perceptions et de passions avant de m'offrir en pâture au mépris horrifié de l'humanité. Vous étiez pourtant le seul être duquel je pouvais exiger pitié et réparation. Je résolus donc de vous retrouver. Je menai pendant plusieurs semaines une existence misérable dans les bois quand un bel enfant arriva. Il était trop jeune pour avoir pris la difformité en horreur. Donc si je parvenais à m'en saisir et à l'éduquer en ma compagnie afin de m'en faire un ami, je ne serais plus une âme solitaire sur cette terre. Mû par cette impulsion soudaine, je m'emparais du garçonnet au moment où il passait à ma portée. À peine eut-il posé les yeux sur ma personne qu'il se couvrit de ses mains et poussa un cri perçant. « Lâchez-moi, espèce de monstre, vous êtes un ogre. Lâchez-moi ou j'appelle mon papa. Il s'appelle Frankenstein et il vous punira. » « Frankenstein, mais alors tu appartiens à mon ennemi. » Tu seras donc ma première victime. L'enfant se débattait toujours et déversait sur moi un chapelet d'injures qui me plongeait dans un désespoir profond. Je serrais sa gorge pour lui imposer le silence. Et bientôt il se retrouva gisant, mort à mes pieds. Je contemplais ma victime et mon cœur se gonfla de joie, tandis que je savourais un triomphe infernal. Battant des mains, je m'exclamais « Moi aussi, je puis semer la désolation. Mon ennemi n'est pas invulnérable. Cette mort lui fera connaître l'amertume du désespoir et mille autres malheurs le tourmenteront. »
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Ce pauvre petit enfant, on est là, Claude Azizet, on n'est pas très loin du roman d'épouvante.
Oui, et en même temps du roman policier. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, je crois que Frankenstein rassemble à peu près tous les romans, sauf le roman de science-fiction dont on le qualifie habituellement, mais ça c'est un autre problème. Oui, un roman policier, pourquoi ? Parce que un indice sur le corps de ce petit William, c'est William Frankenstein, c'est le plus jeune frère de Victor, un indice va laisser penser que la meurtrière est la jeune fille qui s'occupe de cet enfant. Et donc, on va vraiment chercher qui a pu tuer. On trouve cet indice. Elle a beau nier, non seulement elle va être condamnée, mais elle va être pendue. Or, Victor, et ça c'est intéressant, c'est exactement l'impression que ça, le passage, le fameux passage des Misérables où Jean Valjean sait très bien que l'accusé, c'est pas lui. Et donc, Victor va être tourmenté. Il ne peut pas dire la vérité. Et en même temps... Il a beau clamer l'innocence de cette jeune fille, toutes les preuves sont contre elle. Et c'est quand même un passage important, c'est, à mon avis, c'est le carrefour du roman. Ça veut dire cette créature qui est bonne et qui est en quelque sorte vraiment en plein drame parce qu'il a demandé à Victor de lui fournir une compagne. Et Victor, dans un premier temps, a accepté, puis a refusé.
C'est un peu un roman de la solitude,
c'est ça.
L'histoire de Frankenstein.
Et oui.
Vous m'avez créé, mais vous ne m'avez pas donné la capacité d'être aimé et d'aimer. Je suis seul, désespérément seul.
Vous ne m'avez pas donné une Ève, bien sûr, ce que Dieu a fait pour Adam. Et donc, à ce moment-là, il s'aperçoit, d'une part, que son aspect physique terrorise les gens, et d'autre part, il est plein de haine contre Victor Frankenstein. Et c'est pour ça qu'il va tuer ce jeune garçon qui, si ce n'était pas le frère de Frankenstein, il l'aurait laissé. Et donc, on a là le premier meurtre. Mais il y en aura d'autres, bien sûr. Et chacun de ces meurtres sera une vengeance contre son créateur qu'il a laissé tout seul, contrairement à ce qu'a fait la divinité.
Nous parlions de roman gothique, de roman d'épouvante. On trouve là un mélange assez curieux de terreur, de sensualité, de morbidité, d'étrangeté aussi.
D'étrangeté, bien sûr, parce que on est à la fin du roman gothique. Or, dans le roman gothique, on a un bric-à-brac, des châteaux, des chaînes, des fantômes, des personnages monstrueux. Il n'y a pas de bric-à-brac dans le roman de Mary Shelley.
C'est la différence avec Walter Scott, qui va approuver d'ailleurs, qui est un des rares à critiquer,
absolument,
à offrir une critique positive,
et oui,
à publier une critique positive, oui, du roman quand il apparaît.
Ça, c'est très intéressant, parce que toutes les critiques seront très négatives. Seul Walter Scott, qui a quand même écrit, il ne faut pas oublier, des nouvelles fantastiques. Donc, seul Walter Scott sent qu'il y a quelque chose de nouveau, un son nouveau.
Il y a des diables, des spectres, des fantômes, des créatures éthérées chez Walter Scott, dans cette partie de son œuvre qui n'est pas Ivanhoé ou Quentin Durand.
Bien sûr, bien sûr. Lui comprend que c'est un genre littéraire nouveau, qui n'aura pas d'écho en Angleterre, mais qui en aura beaucoup en France. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Et donc, ce passage, c'est le passage, à mes yeux, peut-être clé. C'est la créature bascule.
Il faut peut-être que nous disions un mot maintenant des origines lointaines, car une des raisons probablement du succès de Frankenstein, dont nous parlons ce matin, c'est que le livre s'abreuve de sources très, très lointaines. On peut remonter même à la Genèse, et puis retrouver la mythologie gréco-latine avec Prométhée, peut-être Pygmalion, Claude Aziza.
Alors, il ne faut pas oublier que, comme la plupart des romans de l'époque, le Frankenstein a un sous-titre qui est le Prométhée moderne. Or, Prométhée, c'est un des personnages clés de cette période et d'ailleurs de tout le 19e. Byron a écrit un Prométhée, Shelley fera un Prométhée. Et il y a une allusion à ce que un personnage un peu oublié maintenant, qui s'appelle Lamétrie, qui avait inventé l'homme-machine, d'une certaine façon, parlait d'un Prométhée nouveau.
C'est un des hommes qui était allé le plus loin dans la négation du christianisme, de la foi.
Bien sûr. Sauf que là, à mes yeux, il y a une confusion, parce qu'au fond, il y a deux Prométhées. Il y a celui qu'on connaît et celui qu'on ne connaît pas. Alors, celui qu'on connaît, il a lui-même deux aspects. On va trouver ça chez Hésiode, si vous voulez, dans le mythe de Prométhée. Ça veut dire que, pour Hésiode, Prométhée a trompé les dieux et il leur a, au lieu de leur donner les viandes du sacrifice, il leur a donné des os avec un petit peu de graisse autour, dont Zeus s'est vengé.
En réservant aux hommes la meilleure part de
ces
sacrifices.
Donc Zeus s'est vengé et puis, ça c'est le premier aspect de Prométhée chez Hésiode. Et
alors Zeus prive du coup les hommes du feu, mais Prométhée le dérobe aux immortels,
voilà,
le rapporte sur terre. Évidemment, cela appelait un châtiment terrible.
Voilà, et le châtiment terrible, c'est d'une part Zeus qui offre à Épiméthée, le frère de Prométhée, qui lui offre Pandore, avec la boîte de Pandore, qui va répandre des mots sur l'univers. Et
parce
qu'elle
est très curieuse, elle est merveilleusement belle, mais elle ouvre la boîte
et voilà,
nous voyons les conséquences.
Et oui.
Jusqu'aujourd'hui, on peut dire, non?
Oh, certainement. Et en même temps, Prométhée est enchaîné sur le Caucase et il y a un aigle qui va lui manger le foie. C'est intéressant parce que, par exemple, Byron va comparer Bonaparte exilé à l'île d'Elbe, à Prométhée sur son Caucase. Donc, on a une actualité de Prométhée.
Mais Eschyle, dans Prométhée enchaîné, montre un Prométhée qui est victime de la tyrannie divine et qui accepte stoïquement son destin.
Voilà. Mais il y a un autre Prométhée qu'on oublie, qu'on va trouver chez Ovide, dans les Métamorphoses, et chez Lucien aussi. C'est un Prométhée qui, avec de l'eau et de la glaise, va former le premier homme.
Là, on est chez les Romains.
On est chez les Romains. Et donc là, ce sont ces deux aspects qui sont combinés, parce qu'on oublie toujours le second aspect. Prométhée, celui qui crée l'homme. De la même façon, ça c'est intéressant aussi, parce qu'on ne peut pas suspecter Ovide d'avoir lu la Bible, encore qu'on ne sait pas, il a peut-être lu l'Ancien Testament dans la version des 70, ce n'est pas impossible, de toute façon elle existe déjà. C'est exactement ce que dit le début de la Genèse. Dieu crée l'homme.
Avec de la glaise.
Avec de la glaise. Alors, on parle de romans de science-fiction, mais justement à propos de ça. Quand on regarde l'histoire de Prométhée, on ne nous dit pas combien de litres d'eau et combien de poids de glaise il s'est servi pour créer l'homme. On s'en fiche complètement. Et dans le roman de Mary Shelley, c'est exactement la même chose. Au fond, on ne nous dit pas comment a fait Victor Frankenstein. Alors, c'est amusant parce qu'à l'époque, on s'intéresse à l'électricité, la galvanoplastie. Et en fait, par un juste retour des choses, savoureux d'ailleurs, c'est dans le film, dans le cinéma et notamment dans le film de James Wall, qu'on va se servir de la foudre et de l'électricité pour créer Frankenstein. Ça, c'est très amusant. Mais c'est pas ça du tout. Il fait ça. D'ailleurs, on sait pas comment on va faire Victor Frankenstein. Et honnêtement, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est pas la façon, c'est le résultat. Il n'y a pas de science-fiction là-dedans.
Restons un instant avec nos deux personnages. Une dernière fois, avec cet extrait d'une mise en onde de notre roman Frankenstein, par les voix de Marc-Henri Boisse et de Yves Gerbeau. C'est un extrait de Une vie, une œuvre de Françoise Esteb, sur France Culture, le 30 juillet 1998. Nous allons rencontrer l'ange déchu.
Oh, Frankenstein, ne te contente pas d'être juste pour les autres et implacable envers moi, seul qui, plus que quiconque, ait droit à ta justice et même à ta clémence et à ton affection. Rappelle-toi que je suis ta créature. Je mériterais d'être ton Adam, mais tu me traites en ange déchu et tu me prives sans raison de toute joie. Partout, je vois s'épanouir la félicité dont je suis seul irrévocablement exclu. J'étais doux et bon. Les tourments ont fait de moi un renégat. Donne-moi le bonheur et je redeviendrai vertueux.
Disparaissez. Je ne veux pas vous écouter. Il ne peut y avoir de relation entre vous et moi. Nous sommes des ennemis. Disparaissez, vous dis-je, ou sinon affrontons-nous en un combat dont l'un de nous ne devra pas réchapper.
Comment puis-je t'émouvoir ? Mes supplications sont-elles impuissantes à te faire accorder un regard de pitié à ta créature qui implore ta bonté et ta compassion? Crois-moi, Frankenstein, j'étais bon. Mon âme rayonnait d'amour et d'humanité. Mais je suis seul, affreusement seul.
Alors, Claude Aziza, vous retrouvez vos personnages, Victor Frankenstein, le créateur, et Frankenstein, la créature, dans ce dialogue?
Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer d'un mythe à un autre, c'est-à-dire on passe du mythe de Prométhée à un autre mythe qui est très prégnant au XIXe siècle, c'est Satan, c'est la figure de Satan. Pourquoi? D'ailleurs, l'ange déchu, c'est bien ça, c'est Lucifer. Hein, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout au long du roman, la créature va dire que elle est plus malheureuse encore que Satan, parce que Satan est entouré d'anges déchus, il est entouré d'amis, et elle, elle est toute seule. Et cette figure de Satan, c'est une, avec Prométhée d'ailleurs, avec lequel il est assez souvent confondu, c'est la révolte. C'est l'ange révolté contre Dieu. Et tout au long du 19e, on s'intéressera justement à ce personnage. Alors évidemment, on a derrière, il faut pas oublier Faust, Goethe, hein, que Mary Shelley a lu, bien sûr. Il y a aussi le mythe de Faust.
Avec Méphistophélès.
Avec Méphistophélès et donc la tentation, hein, c'est, bien sûr. Ça donne, ce personnage de Satan donne un aspect chrétien, christique d'ailleurs, de toutes les façons, au roman de Mary Shelley. Et c'est en cela aussi qu'il est unique. C'est-à-dire qu'il est aux confluences à la fois de la mythologie et en même temps de la Bible. Et ça, c'est à mes yeux un son unique dans la littérature du XIXe siècle.
En somme, Belzébuth, Satan, est proche de Victor Frankenstein, du savant fou, de l'apprenti sorcier.
Bien sûr. Alors c'est intéressant, parce que Belzébuth, ça veut dire le seigneur des mouches, hein, c'est Baal-Zébuth. C'est donc tous les noms. Et au Moyen-Âge, la figure de Satan, c'est une figure importante, mais au fur et à mesure, à partir du diable amoureux de Cazotte, donc à la fin du XVIIIe, au fur et à mesure, c'est quelqu'un qui va devenir positif. C'est une figure de la révolte contre Dieu, tout comme Prométhée, qui se révolte contre Zeus.
D'où l'ambivalence à quoi nous sommes si sensibles du personnage de Frankenstein, qui est aussi probablement une raison de la longue durée de sa présence dans
tout
le cinéma,
fait.
Partout, et peut-être devant nous maintenant y venir. Je vais vous faire entendre un extrait d'un film qui est peut-être le plus célèbre, un des plus célèbres, vous allez nous le dire,
oui.
Claude Aziza, de la postérité de Frankenstein. C'est Frankenstein Junior, c'est un film vraiment très drôle, de Mel Brooks, n'est-ce pas, qui remonte à 1974. Écoutons-en cet extrait.
Permettez-moi de vous présenter le docteur Baron Friedrich von Frankenstein.
Mes chers collègues, neurochirurgiens, mesdames et messieurs, il y a quelques semaines, et quoique moi-même, issu d'un milieu par tradition attaché aux sciences exactes comme n'importe lequel d'entre vous, j'ai poursuivi mes expériences sur la réanimation des tissus morts. Ce que j'ai à vous offrir pourrait probablement nous ouvrir les portes de l'immortalité. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter, pour votre plaisir intellectuel et votre plaisir philosophique, la créature. Je vous en prie, ne quittez pas vos places. Nous ne sommes pas des enfants, mais des hommes de science. Je vous assure qu'il n'y a rien à craindre. Ladies and gentlemen, à la place de ce qui fut autrefois un amas de tissus inanimés, vous allez voir ce prodige de culture et de sophistication, un homme dans le vent.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits?
Frankenstein, en l'occurrence, fait des claquettes, ce qui est un peu surprenant. Quel est le ressort du rire dans ce film célèbre?
C'est-à-dire que, pour bien l'expliquer et assez rapidement, il faut d'abord penser qu'on a à peu près entre 85 et 90 films sur Frankenstein. Or, on arrive à une période qui est classique. On a d'abord la série des Universal dans les années 30. Ensuite, on a la série des Hammer, la firme anglaise, dans les années 60. Et comme toujours, au moment où une série est quasiment vide, ça veut dire qu'on a trop fait, on a deux voies. On a la première voie, c'est l'érotisme, donc on va avoir des Frankenstein porno, d'une certaine façon.
Alors bon.
Et puis la deuxième voie, c'est la satire. Et là, c'est évidemment le Frankenstein satirique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est en 74, et puis 20 ans après, une génération après, c'est toujours comme ça, on a de nouveau des Frankenstein avec le Frankenstein de Kenneth Branagh en 94.
Qui est un beau film.
Qui est un très beau film et qui est vraiment, et qui d'ailleurs est relativement fidèle. Et donc, pour revenir à Mel Brooks, on a bien sûr quelque chose qu'on ne saisit pas ici, c'est que le descendant de Frankenstein d'ailleurs ne veut pas appeler Frankenstein, c'est Gene Wilder qui est mort récemment et qui va passer son temps à dire Frankenstein. Il ne veut pas qu'on l'appelle Frankenstein et donc, évidemment, il a foiré. Mais le monstre est sympathique. C'est un duo assez sympathique. C'est une belle réécriture parce que parmi tous ces nanars, si vous voulez, parce qu'on a un nombre infini de Frankenstein américains, mexicains, italiens, français d'ailleurs. On en a un Frankenstein avec Jean Rochefort et Eddie Mitchell, par exemple. Enfin bref, c'est une façon aussi de prouver que le monstre est devenu un mythe.
Auparavant, il y a eu Boris Karloff à qui il faut s'attacher un instant.
Bien sûr, il y a eu Boris Karloff. En fait, on a trouvé, c'est un petit peu compliqué, mais enfin, disons pour le faire très vite, que dès 1823, le roman est adapté au théâtre. Mais ça, c'est la règle générale de tous les romans du 19e, ça passe à la scène. Et Godwin est là avec Marie. ils assistent à la première adaptation. Il faut dire que Godwin était, comment dire, un redoutable homme d'affaires et qu'il a un peu, il faut bien dire, vécu sur, si j'ose dire, sur les droits d'auteur de sa fille. Bon, enfin bref. C'est intéressant d'ailleurs, il avait créé la première librairie pour la littérature de jeunesse, à Londres, bien avant Hetzel d'ailleurs. Bon, et donc le théâtre, alors on a plusieurs pièces qui sont maintenant invisibles, hein, bien entendu, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le film de Jamwal en 1931 s'inspire, non pas du roman, mais s'inspire d'une pièce précédente, tout comme d'ailleurs le film de Browning sur Dracula s'inspire d'une pièce précédente.
Mais la rencontre avec un acteur qui va être prestigieux, c'est Karloff.
Voilà, c'est Karloff. Alors, un acteur prestigieux, un réalisateur très étonnant d'ailleurs, qui va mourir noyé d'une Encore. Façon tout à fait mystérieuse. James Whale, oui.
Tout le monde est noyé autour de Marie Shelley, tout le monde
oui,
se noie.
Dont on se... qui vivait mal, semble-t-il, une homosexualité, enfin bref. Et puis, un maquilleur de génie qui s'appelle Jack Pierce. Et donc, c'est ce maquillage, au fond, qui va faire la célébrité de Karloff et son malheur en même temps, parce qu'il va être bloqué par ce rôle presque toute son existence, bah, presque ensuite, il sera remplacé par Christopher Lee pour la Hammer.
Et je pense que nos auditeurs et nos auditrices ont en mémoire le visage vraiment sans pareil de Boris Karloff et jouant oui. Frankenstein.
Au fond, il n'a pas grand-chose à voir avec la créature, d'autant plus que si on regarde... Le premier film le plus célèbre, hein, d'ailleurs, qui est mutilé, qui a été restauré. On s'aperçoit que ça se passe dans une espèce de petite ville allemande des années 30, je dirais presque pré-nazie, hein, avant. Et ça, il n'y a pas les grands espaces. Il y a donc une atmosphère d'épouvante.
C'est la ductilité d'un mythe, comme toujours, voilà. d'un propos de ce type.
Absolument. Et c'est Karloff qui fait le mythe, quoi. Et on ne peut voir Frankenstein maintenant, le monstre, bien sûr, que par les yeux de Karloff.
Il y a aussi du côté de la littérature, aussi des enfants légitimes ou adultérins de Marie Shelley.
Absolument, mais ça c'est aussi la règle. Vous avez un fils de Monte Cristo écrit par Jules Lermina, qui connaissait bien Dumas au 19e. Vous avez effectivement le D'Artagnan amoureux de Nimier qui comble des creux entre les Trois Mousquetaires et 20 ans après.
Et dans une émission intérieure, nous avions vu tous les descendants d'Arsène Lupin,
bien sûr,
librement recréés par bien le sûr. Talent de beaucoup d'écrivains.
Alors, de tous ces écrivains, on en a quelques-uns qui sont connus. On a Jean-Claude Carrière qui écrit sous le pseudonyme de Benoît Becker une série de romans. On a aussi un grand romancier de science-fiction qui s'appelle Dean Koontz qui recrée Frankenstein dans un milieu moderne. Mais il y a surtout le plus grand, à mes yeux, romancier anglais de science-fiction qui est mort cet été, en été 17, qui s'appelle Brian Aldiss et qui recrée un Frankenstein d'une façon assez intéressante, car son personnage, son héros, qui est un professeur qui a réussi à se glisser dans des failles temporelles, va se rendre compte que finalement, ces personnages de roman sont des personnages réels. Il va rencontrer Marie Shelley, tomber amoureux d'elle, et lui dire qu'elle va écrire un Frankenstein. Et il y a une magnifique adaptation cinématographique de ce Frankenstein par Roger Corman. Donc ça, à mes yeux, c'est la preuve que le mythe a produit des enfants et ces enfants sont parfois presque aussi beaux que leurs parents, d'une certaine façon.
Et en somme, ce personnage vient se glisser dans les pages de Marie Shelley, rétrospectivement. Il y a comme ça un conte ou une nouvelle de Woody Allen où il évoque un personnage qui va se glisser dans l'histoire de Madame Bovary, à la surprise générale des professeurs qui continuent de commenter le roman. C'est un peu la même idée.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. L'idée que les êtres de fiction sont des personnages réels.
Je voudrais, pour terminer notre conversation, Claude Aziza, que nous rendions décidément justice à Marie Shelley, sans laquelle il n'y aurait pas de Frankenstein, il n'y aurait pas eu d'émission, ce qui aurait été très triste. Elle a continué d'écrire, on peut en particulier disposer aujourd'hui de son roman qui s'appelle Le Dernier Homme, qui mérite qu'on le considère.
Bien sûr, elle a continué d'écrire. Peu à peu, ses œuvres ont été traduites en français et on a peut-être là quelque chose qui ressemble à la science-fiction. Parce que dans Le Dernier Homme, c'est une fin de monde. C'est une fin de monde et le héros va se retrouver comme ça dans un monde qui est en train de périr.
À cause de la peste.
Et là, on a une thématique qu'on va retrouver, par exemple, dans les romanciers de science-fiction américains. Je suis une légende de Richard Matheson, par exemple. C'est-à-dire là, elle a ouvert la voie, pas avec Frankenstein. Et c'est quand même elle mérite quand même qu'on la connaisse au-delà de ça. Je pense que c'est une femme, ça a été une femme admirable, qui a eu une vie extrêmement tragique et qui a continué avec beaucoup de courage et ça mérite qu'on lui rende hommage ici, me semble-t-il.
Eh bien, il est heureux que cet hommage soit rendu à Marie Shelley à la fin de notre rencontre, de notre conversation, Claude Aziza. Vous venez de publier, l'idée de ce thème est venue pour moi de cette lecture, un dictionnaire Frankenstein paru chez Omnibus. Comment l'idée vous en est-elle venue ?
Je voulais... En fait, je suis pour les commémorations. Je suis pour le devoir de mémoire. Et il me semblait que pour le bicentenaire, il fallait faire quelque chose sur Frankenstein. Mais je n'étais pas forcément... C'était pas forcément moi. Hein, puisque je suis un spécialiste d'antiquité. Et on va de ça. Mais je connaissais bien le roman. Et ça m'a tenté, donc j'y ai consacré un été, il faut bien dire. Voilà, j'ai passé un été avec un monstre.
Eh bien, c'est une notation autobiographique à quoi nous sommes forcément sensibles, Claude Aziza.
Merci, d'autant plus que j'ai fait une entrée qui s'appelle Frankenstein et moi.
Un peu de narcissisme à côté du monstre, ça
absolument,
ne messied pas.
Absolument.
Vous avez également proposé une préface à une réédition de Frankenstein qui est disponible dans la collection Pocket. Vous nous recommanderiez quels autres ouvrages sur Frankenstein ?
Moi, j'aime bien les Mille vies de Frankenstein d'André Ruault aux moutons électriques. Je trouve que c'est...
Les moutons électriques, c'est un beau titre pour une maison d'édition.
C'est une maison d'édition spécialiste un peu dans la science-fiction qui reprend... c'est une allusion à une nouvelle de Philip K. Dick qui s'appelle « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » et qui a été transcrite au cinéma sous le nom de Blade Runner. Voilà. Je crois que c'est un petit clin d'œil aux amateurs de Dick et de science-fiction.
Vous pourrez retrouver une bibliographie plus complète et notamment un numéro spécial de la collection Autrement dans les figures mythiques de Gilles Menegaldo sur notre site avec les références et documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, je vous emmènerai en Égypte, l'Égypte du XIIIe au XVIe siècle, l'Égypte des Mamelouks, pour aller quérir tel ou tel rebond possible, tel ou tel reflet, quand on considère l'Égypte d'aujourd'hui, celle du maréchal Sissi qui vient d'être réélu, vous le savez, selon un vote qui n'était pas forcément extrêmement démocratique. Et j'inviterai pour en parler Julien Loiseau. Et puis je rappelle que la fabrique de l'histoire de notre ami Emmanuel Laurentin sera consacrée la semaine prochaine à l'histoire de la viande. C'est une émission qui sera fort écoutée, mais pas forcément par les véganes. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guérou, une émission réalisée par Anne Kobilac, avec la prise de son U2 Diego Aclopès, avec la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Annie Lozana. Et maintenant, voici l'émission de Christine Ockrent, Affaires étrangères.